BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Le Chypre.
Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur. Ils seront nos invités dans la première partie de l'émission et puis vous retrouverez ensuite nos critiques attitrés Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux pour leur coup de cœur et leur coup de gueule, nos chroniques, le coup de cœur de la rédaction, nos études, nos chiffres. Mais tout de suite, on démarre avec nos auteurs et je vous aurais quand même rappelé aussi d'aller voir sur nos réseaux sociaux, Librairie de l'écho, Librairie de l'écho sur tous les réseaux sociaux pour retrouver notamment les références précises de tous les livres dont on parle dans l'émission. Jamais le monde n'a été aussi endetté qu'on parle d'argent public ou d'endettement privé. Est-ce que cette augmentation de la dette qui semble inexorable est un danger pour l'économie mondiale? Est-ce que c'est un danger pour la France? Est-il possible de contenir cet endettement, voire de le réduire sans en passer par de terribles secousses financières? Réponse avec nos deux invités. Antoine Brabert, bonjour.
Bonjour.
Anton, vous êtes professeur associé honoraire à l'Université de Dauphine, vous avez dirigé le CEPI, vous avez été économiste dans la banque et vous publiez aujourd'hui « Géopolitique de la dette, où va l'épargne du monde ?» C'est aux éditions Edil Jacob. Olivier Klein, bonjour.
Bonjour.
Économiste, professeur à HEC, ancien directeur général de BPCE, toujours dans la banque aujourd'hui, vous publiez « Dette, réforme et démocratie, comment sortir du cercle vicieux français ?» C'est aux éditions Décryptage, avec une préface de notre idole absolue ici à la librairie de l'écho, vous savez bien, Jacques Delarosière.
Absolument.
On commence avec vous, Anton Brinder. Alors, vous êtes quand même gonflé parce que le point de vue, le point de départ en fait de votre livre pour bien comprendre ces mécanismes de circulation de l'épargne, de l'endettement, etc. Vous dites en fait c'est la dette qui rend possible l'épargne, alors que franchement moi j'avais toujours cru que c'était l'épargne qui rendait possible la dette.
Je crois justement que c'est important de bien avoir en tête comment ça fonctionne, parce que sinon on peut pas comprendre ce qui se passe et on peut surtout
40 ans que j'ai tout faux. Voilà.
Non, j'ai pas dit ça. Non, ouais, mais soyons simples, en fait ce qui se passe c'est que d'un côté les gens trouvent que l'épargne est une énorme vertu qu'il faut absolument favoriser. Et de l'autre côté, ils ont une peur terrible de la dette. Et dès que la dette monte, on dit attention, attention, attention. Et on oublie juste que cette progression continue de la dette, elle est une nécessité parce que seule la dette permet à l'épargne de monter. Alors, on a tous les deux bien connu le milieu des banques. Tout ça se ramène simplement à une réalité qu'on apprend dans tous les livres depuis quelque temps, parce que les banquiers ont mis un petit moment à bien le comprendre. C'est que ce sont les crédits qui font les dépôts, et que ça n'est pas le contraire. Et donc, avant qu'on puisse mettre de l'argent en circulation, et le mettre de côté, parce que c'est ça l'épargne, c'est mettre de l'argent de côté, il faut d'abord qu'il ait été émis, que les billets aient été imprimés, que les comptes aient été alimentés, et ça se fait toujours par un crédit. Et donc, pour qu'on puisse mettre de l'argent de côté, parlons simple, il faut absolument qu'il y ait des emprunteurs qui empruntent. Les deux montent nécessairement, parallèlement, et s'inquiéter de l'un sans comprendre qu'il est le reflet de l'autre, c'est toujours un peu trompeur.
Alors, le monde d'aujourd'hui, Antoine Brinder, vous le décrivez comment? Est-ce que c'est un monde dans lequel il y a un équilibre entre, finalement, l'épargne et la dette? Est-ce qu'on était dans un monde dans lequel l'épargne était abondante ou l'épargne va se raréfier? C'est quoi le rapport de force aujourd'hui?
Alors, on était dans un monde où, effectivement, l'épargne, les gens, dans le monde entier, les ménages, avaient des propensions à épargner élevées, et ils continuent souvent de les avoir. Mais d'un autre côté, on a assez vite constaté qu'on manquait d'emprunteurs. Il faut pas oublier qu'on a pratiqué pendant une dizaine d'années, on a vu des taux d'intérêt des banques centrales être à zéro, voire en dessous, certains pays.
Il n'y aurait jamais dû avoir autant d'emprunteurs, alors?
Eh bien justement, on en manquait cruellement, et c'est bien ça. Parce qu'il ne faut pas oublier qui empreinte dans le monde où nous vivons.
Eh oui.
La vision idéale, ce qu'on apprend dans les manuels d'école et qui rassure, c'est que d'un côté les ménages épargnent, de l'autre les entreprises pour investir empruntent. Et tout va bien, plus il y a d'épargne, plus il y aura d'investissement et tout le monde sera content. Le problème, quand on regarde comment les choses se passent effectivement, eh bien on s'aperçoit que les entreprises, elles s'endettent, mais elles font aussi énormément de placements. Elles font des prêts, elles ont des dépôts en banque. Et quand vous regardez ce que les entreprises laissent comme contrepartie à l'épargne des ménages, on s'aperçoit que d'un bout à l'autre de la planète, ça ne suffit pas à permettre aux ménages d'accumuler autant de placements qu'ils souhaitent le faire. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, on vit dans un monde où les autres ménages, ceux qui empruntent pour acheter des maisons, les crédits immobiliers, ou bien l'emprunt public, ont fourni ce qui manquait. Et dans ce monde-là, effectivement, eh bien, les dettes qui montent, c'est moins celles des entreprises, même s'il y a des entreprises très endettées, mais en net, ceux qui fournissent les dettes dont on a besoin, ce sont ou les ménages, et ça se termine parfois mal, ou les entreprises, les États, pardon, ouais. Et ça peut aussi se terminer mal.
Qui a le plus de pouvoir aujourd'hui ? Est-ce que ce sont les pays qui sont très emprunteurs ou est-ce que ce sont les pays qui sont très endettés ?
Alors, il y a un pays, je vois la question qui est sous-jacente, il y a un pays qui a accepté de s'endetter massivement,
ouais,
et qui a rendu service à la planète entière, parce qu'en Chine, pour les raisons qu'on a dites, c'est pareil partout. Au Japon, dans le Golfe, en Europe, on cherchait des emprunteurs. Où est-ce qu'on a pu les trouver ? En gagnant des parts de marché, en contraignant nos importations, on les a trouvés aux États-Unis. Et finalement, c'est un monde dans lequel tout semblait aller relativement bien. L'Europe, la Chine mettaient de l'argent de côté et les États-Unis l'empruntaient. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Est arrivé aux États-Unis quelqu'un qui a décidé qu'il était hors de question que les États-Unis continuent d'emprunter autant au reste du monde, parce que en même temps que les États-Unis empruntaient au reste du monde, ils acceptaient d'avoir un déficit commercial à l'égard des pays qui leur prêtaient. Et ce déficit commercial, il avait pour corollaire des destructions d'emplois. Et Trump a été élu en disant, ben moi, je vais faire revenir aux États-Unis les emplois qu'on a perdus en Chine, en Europe, etc. Je vais les faire revenir. Et ça, il essaie de le faire. Il a mis des droits de douane, c'est un peu sauvage, mais ça c'est fait. Et il y a juste un détail qu'il a oublié, c'est que pour que les États-Unis arrêtent d'avoir un déficit extérieur, un déficit commercial, soyons simples, avec le reste du monde, ben il faut qu'aux États-Unis, on emprunte moins. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, malheureusement, il creuse son déficit budgétaire. Il voudrait que les taux baissent pour qu'aux États-Unis, on emprunte plus facilement. Et donc, il est en train de faire basculer l'économie mondiale, c'est pour ça que j'ai parlé de géopolitique de la dette, il fait basculer l'économie mondiale dans un monde où on manquait d'emprunteurs, les États-Unis rendaient le service d'être les emprunteurs en dernier ressort, en un monde qui, au contraire, risque d'avoir trop d'emprunteurs, et peut-être même moins d'épargnants, et là,
donc
l'environnement dans lequel nous nous trouvons va changer.
Donc le pouvoir va être aux pays qui ont beaucoup d'épargne, et on se dit, bah, finalement, dans ce monde de demain, où quand on essaye de lister les avantages comparatifs de l'Europe par rapport aux autres continents, c'est-à-dire quand on regarde technologie, etc., on se dit bah on n'a pas forcément beaucoup d'atouts. Eh ben le fait qu'il y ait beaucoup d'épargne en Europe va redevenir un atout pour nous.
Alors là encore, c'est pas l'idée que je défends. Pourquoi ? Parce que il faut comprendre comment on a dégagé notre excédent. Si effectivement notre excédent, on l'avait dégagé, notre excédent commercial, puisque depuis quelques années, on prête des centaines de milliards d'euros au reste du monde, et en particulier aux États-Unis. Comment on est arrivé à ce résultat ? Est-ce que c'est parce qu'on est devenu plus compétitif ? Pas du tout. Parce qu'au contraire, on a contraint notre croissance à rester faible en menant des politiques budgétaires, qu'on appelle pour simplifier des politiques d'austérité, qui ont fait notre croissance a été comprimée, que la croissance et donc nos importations ont progressé lentement, alors que les importations du reste du monde, nos exportations, elles, progressaient rapidement. Et donc notre excédent commercial, c'est pas du tout le résultat d'une compétitivité accrue, d'une économie dynamique. C'est le résultat, au contraire, d'une économie qui a stagné, dans laquelle l'investissement des entreprises a été faible, et où il n'y a plus de gains de productivité.
Alors, vous défendez un autre point de vue original, Anton Brinder, c'est l'idée que la mondialisation financière, dont on pourrait penser qu'elle a permis une allocation plutôt efficace de l'épargne mondiale à travers la planète, eh ben non, en fait, cette mondialisation financière, elle a au contraire rendu le monde moins solidaire.
Elle a rendu le monde moins solidaire, tout simplement parce que au début de la mondialisation, en particulier de la libéralisation financière, beaucoup de gens se disaient, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, qui sont développés, il y en a d'autres qui en ont moins, le coût du travail est beaucoup plus faible dans ceux qui sont moins développés. Normalement, on devrait voir les investissements se déplacer des uns vers les autres. On est arrivé au monde, dans un monde où les choses fonctionnent à l'envers, où c'est la Chine qui finance les États-Unis, c'est la Chine qui prête aux États-Unis et pas les États-Unis qui prêtent au reste du monde moins développé. Et c'est grâce à cette épargne qu'elle a réussi à exporter aux États-Unis que la Chine a évité l'asphyxie de son économie, tout simplement parce qu'en Chine, on continue, pour des tas de raisons, d'épargner trop. Et donc, le système, c'est pour ça que j'avais mis comme sous-titre « Où va l'épargne du monde ?» L'épargne du monde, elle va à ceux qui sont capable de l'emprunter. Et la région qui est la plus capable d'emprunter de l'épargne, c'est celle qui est capable d'émettre des dettes. Mais des dettes qu'on peut acheter, c'est-à-dire des titres. Et les États-Unis ont cette particularité que ce sont eux qui ont le marché de titres de dette le plus développé de la planète et qui acceptent d'émettre.
Et pourquoi vous dites que toute cette logique financière qui prévaut depuis 40 ans, finalement, est aujourd'hui menacée ?
Elle est menacée tout simplement parce que la politique incohérente que mènent aujourd'hui les États-Unis est en train de déstabiliser les taux mondiaux et on va voir les taux d'intérêt au niveau de la planète et en particulier bien sûr en Europe monter, que vous ayez ou pas de l'épargne, ça ne va pas changer grand-chose. Les taux vont monter et il faut absolument qu'on s'y prépare. Nos États en particulier, et l'État français plus qu'un autre, vont devoir se préparer à ces turbulences qui vont naître de l'incohérence de la politique américaine, qui provoque partout une réduction de l'épargne et une hausse de l'endettement.
Alors, justement, Olivier Klein, est-ce que la France, comme le dit Anton Brinder, est préparée à cette augmentation des taux d'intérêt? Pour le dire autrement, est-ce que le niveau atteint aujourd'hui par la dette publique en France est dangereux et avec quel degré d'urgence il faut traiter le problème?
Je vais répondre tout de suite à la question. Je vais simplement mettre, si Anton me le permet, deux variantes par rapport à ce qui a été dit, mais peut-être ça se rejoint. La première chose, c'est que les taux d'intérêt longs ont été très longtemps trop bas, probablement aussi parce qu'il y a eu du quantitative easing et que c'est artificiellement qu'on a mené ces taux par les banques centrales à des niveaux très bas pour se sauver de la dépression qu'on aurait eu sinon après la crise financière. La deuxième remarque, parce que ça me permet de rebondir, c'est que en réalité en Chine on manque de consommation, en Europe on manque d'investissement, et aux États-Unis on a trop de déficit public. Alors, il se trouve que tout ça se combine naturellement, mais je mettrai des raisons aussi économiques, non financières seulement, à ce qui vient d'être décrit, c'est que en réalité, si l'Europe n'a pas assez d'investissements, c'est parce qu'elle n'a pas de projet assez rentable et qu'elle fait de la surréglementation. Il n'y a pas tellement, à part en Allemagne, où franchement, il y a eu un manque d'investissement et de consommation, en France, on n'a pas eu une politique budgétaire restrictive du tout. Au contraire, puisque on a développé notre dette publique de façon considérable, avec des taux de déficit public supérieurs à ceux des autres depuis très longtemps. Donc, la réalité, c'est qu'on a accumulé une dette publique beaucoup plus vite que tous les autres pays de la zone euro.
Oui.
En 2000, entre 2000 et 2025, et c'est ça le sujet, parce que si tout le monde avait fait pareil en Europe, ce serait moins grave pour répondre à la question. En moyenne, la zone euro hors France a monté de 11 points de PIB le taux d'endettement public. En France, on l'a monté de 56 points, c'est-à-dire 5 fois plus. C'est gigantesque. Donc oui, c'est pas le niveau de taux d'endettement qui me fait peur, moi.
C'est la vitesse,
c'est
laquelle...
la trajectoire non contrôlée sur laquelle on est. Le taux d'endettement en tant que tel n'est pas est inquiétant.
Il y a rien dans la théorie économique qui nous dit qu'il y a un niveau d'endettement à partir duquel la vie devient
impossible. Moi, je ne crois pas trop ça. Je crois surtout qu'il y a un taux d'endettement non contrôlé qui commence à de moins en moins se contrôler, et notamment quand les taux d'intérêt commencent à monter au-dessus du taux de croissance, ce qui est le cas en Europe pour l'instant, en Italie et en France. Avec ce qu'Antoine Brender vient de dire, que je partage en gros, c'est-à-dire que les taux longs vont monter pour les raisons dites, ça va devenir pire pour beaucoup d'autres pays.
De crise,
eh bien, alors pour la France,
de vraie défiance pour la France,
on a quelque chose qui est formidable et dangereux à la fois, c'est l'ambivalence de l'euro. On est dans l'euro, c'est hyper protecteur, et heureusement qu'on y est. On est dans l'euro, c'est hyper anesthésiant, et ça fait longtemps qu'on aurait changé de politique si on a vu les dévaluations et si on a vu la pression sur le franc. Donc là, on joue au clandestin, n'est-ce pas, au passager clandestin dans l'Europe, et la pression, elle viendra peut-être moins des marchés, parce que en France, la France est trop grosse pour que la BCE nous laisse tomber, probablement. Mais les autres pays qui constituent les copropriétaires de l'euro vont peut-être réagir tôt ou tard en nous disant ça suffit comme cela parce qu'on devient dangereux et on tire les taux à la hausse pour tout le monde.
N'empêche qu'il y a bien une spécificité française, puisqu'avec les mêmes contraintes, la même monnaie, vous l'avez dit, les autres pays n'ont pas vu leur endettement augmenter autant. C'est quoi,
et de loin.
C'est quoi la spécificité française de cette dérive de la dette, qu'est-ce qui explique le fait qu'on soit dans l'impossibilité de contrôler nos finances publiques ?
Il y a sûrement beaucoup de raisons. Il y a certainement déjà un État hypercentralisateur historique qui fait qu'il cherche à remplacer tout, à répondre à tout, etc. Et évidemment, on lui demande trop et à chaque fois, il déçoit. À partir d'un certain moment, parce que moi je crois beaucoup à la dépense publique et à son utilité. Simplement, il y a des moments où on dépasse les équilibres normaux et on finit par asphyxier, et on finit par décourager les gens même d'être responsables pour eux-mêmes. Quelqu'un qui le décrit très bien, il y a beaucoup de gens qui le décrivent très bien, mais il y a longtemps déjà, on avait notre... je recherche son nom maintenant, mais ça va me revenir immédiatement après, c'est pas grave. Une philosophe qui a écrit beaucoup sur le totalitarisme, Hannah Arendt, qui a très très bien décrit le phénomène des États surpuissants, omniprésents, qui découragent l'initiative et la responsabilité individuelle. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'avec cet État-là, on a des corps intermédiaires rétrécis, est trop petit en réalité, qui ne joue pas suffisamment leur rôle. Et les syndicats sont très peu représentatifs en France. Ce qui est un tort. Ça marche bien mieux quand on a des pays avec des syndicats plus représentatifs. Et du coup, ils la surjouent dans la rue. Et évidemment, ça crée des blocages. Et puis, il y a une culture conflictuelle française, historique, depuis longtemps, on le sait. Et enfin, je pense qu'il y a une sorte de mélange culturel qui provoque du compassionnalisme. Et le compassionnalisme, c'est très bien d'avoir de la compassion, mais c'est pas très bien de vouloir régler seulement les symptômes au lieu d'aller régler les causes. Et souvent, on est là-dedans. Ce qui fait qu'on accumule en permanence dans une demande d'État de plus en plus forte, qui déçoit de plus en plus. Et le paradoxe français, c'est ça. On dit qu'il faut pas toucher aux dépenses publiques, mais les Français eux-mêmes sont très très nombreux dans tous les sondages à dire qu'il faut baisser les impôts, qu'ils sont prêts à abandonner des dépenses publiques contre des baisses d'impôts, etc., etc. Donc, on voit bien qu'il y a une défiance progressive qui monte vis-à-vis du pouvoir public, elle est très forte en France, et on peut dire que c'est partout pareil. Non. En France, il y a 22% de personnes qui pensent que la politique, on n'a plus confiance dans la politique, Excusez-moi. Il y a 22% de Français qui pensent qu'on a encore confiance dans la politique. Il y en a 45% en Angleterre, en Allemagne, en Italie. Mais donc, vous voyez, et ça, c'est un cercle vicieux qui se crée.
Il y a un lien que vous faites aussi. Vous dites, l'hyper-endettement français, c'est aussi le produit de ce que vous appelez l'hyper-démocratie.
Oui. Alors, je décris l'hyper-démocratie non pas comme une démocratie avérée complète, mais comme une démocratie dont certains traits par eux-mêmes, de façon endogène, se détériorent et poursuit dans des excès qui vont détruire la démocratie à terme. Et je donne deux axes. Le premier, c'est le fait de monter sans arrêt les droits, sans monter les devoirs de façon parallèle. Ouais. Ça conduit inévitablement à la dette, à la dette publique. On ne peut pas sans arrêt augmenter les droits, sans monter les devoirs et les responsabilités. C'est juste impossible. Le deuxième axe de l'hyperdémocratie pour moi, et donc de cette tendance délétère, d'une démocratie qui va dans ses excès et qui ne s'équilibre pas toute seule, c'est l'égalité de plus en plus voulue, surtout en tout. Et qu'on confond radicalement avec ce qui fonde la démocratie. Ce qui fonde la démocratie et la République, c'est l'égalité des droits et c'est l'égalité des chances. À partir du moment où on veut l'égalité en tout et pour tout, on tue le moteur économique pour partie et on demande de plus en plus de redistribution qui finissent par abîmer l'attractivité du travail.
Et après, vous le dites.
Et de l'autre côté, ça monte les impôts, parce qu'on veut toujours des droits, mais on ne sait pas donner les devoirs, ça tue la compétitivité des entreprises.
Plus la fiscalité s'alourdit, plus la compétitivité et l'attractivité diminuent, et plus on rentre dans un cercle vicieux où les cotisations sociales augmentent, et plus les cotisations sociales augmentent, plus effectivement...
Moins il y a taux d'emploi.
Et puis effectivement...
Et plus le taux d'emploi est faible, contrairement aux pays les plus les plus efficaces en Europe, eh bien moins la base de cotisation et d'imposition est forte et elle ne nourrit pas cet accroissement de dépenses publiques.
Est-ce que vous dites aussi,
et donc c'est on rentre dans la dette.
On parle souvent du modèle social français, mais vous dites en fait notre modèle social il a plus de cohérence aujourd'hui puisque c'est surtout devenu une espèce d'empilement de mesures de protection qui sont devenues presque incohérentes les unes avec les autres et voilà cette espèce de millefeuille qui n'est plus un modèle finalement en soi.
Exactement. Ce que je pense, c'est que l'idée d'un modèle social protecteur du type de l'Europe du Nord, social-démocrate, réformiste, avancé, peu importe, est un beau modèle qui est envié et qui est un beau modèle. Mais si on ne se donne pas les moyens, contrairement à certaines démocraties du Nord ou de l'Allemagne, si on ne se donne pas les moyens de le faire vivre, ça ne peut pas marcher. Et là, je fais un distinguo très fort entre les réformes structurelles absolument nécessaires pour faire vivre le modèle et l'austérité. Autrement dit, quand on nous dit c'est soit le modèle économico-social ou les réformes, parce que les réformes, ça va l'abîmer, ouais. C'est ceux qui disent cela qui l'abîment. Bon, la réalité, c'est qu'il faut les réformes pour sauver le modèle.
Messieurs, comment on en sort, Anton? Comment je peux... Est-ce qu'on va arriver un jour à inverser, casser cette spirale de la dette?
Je rejoins complètement la conclusion de Olivier, mais... Autrement dit, aujourd'hui, c'est vraiment notre démocratie qui est mise au défi par ce qui est en train de se passer. Mais je pense, juste pour revenir sur la vision que moi je donne de la même question, mais vue cette fois dans le contexte macroéconomique dont on a parlé, pourquoi la France, parmi les pays européens, est celui où le poids de la dette est monté de façon continue? Tout simplement parce que on a mené, et je l'appelle comme ça dans le livre, une politique de stabilisation de notre croissance, de notre marché du travail, que je qualifie de sournoise. Autrement dit, on n'a jamais dit qu'on voulait éviter que le chômage monte. Mais on a toujours dit, je repousse le moment où je vais rééquilibrer mon budget. On a fait ça depuis 25 ans. On a toujours dit, à la fin de la période, je vais ramener mon déficit à 3%, etc. On ne l'a jamais fait.
Est-ce qu'il y a une voie pour le faire?
Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait? Pardon, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait? Parce que sinon, notre conjoncture se serait dégradée.
Ouais.
Autrement dit, on ne peut pas, moi c'est ça que j'essaie d'expliquer, se fixer des objectifs de déficit et de dette sans prendre en compte le contexte macroéconomique dans lequel on est. On ne peut pas négliger les comportements d'épargne des ménages européens.
Ouais, mais...
Ça ne veut pas dire que la France ne doit pas rééquilibrer son budget. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas le faire.
Mais est-ce qu'on peut le faire de façon...
Alors je peux
sans bain de sang.
Peut-être dire que je pense que oui, parce que c'est difficile, surtout du point d'où l'on part. Mais c'est possible. Et surtout, il faudrait aller vite maintenant, parce qu'on ne peut pas sans arrêt procrastiner et laisser monter la dette de plus en plus. Elle va être étouffante. Donc pour les réformes, lesquelles? Il y a des réformes, parfois, dont on dit elles vont abîmer la croissance. Mais il y a des réformes qui augmentent le potentiel de croissance. Augmenter le nombre de personnes qui travaillent, ça augmente le potentiel de croissance. Donc, aller chercher le taux d'emploi des jeunes qui est mauvais en France par rapport aux pays qui marchent le mieux en Europe, c'est bon. C'est bon pour eux, c'est bon pour la socialisation, c'est bon pour la société, c'est bon pour l'économie. Aller chercher les seniors qui sont que, on le sait bien, 40, un peu plus pour cent, à travailler après 60 ans jusqu'à 64 ans, alors qu'on est entre, aux alentours de 70, jusqu'à 80% dans les pays qui fonctionnent le mieux, eh bien, évidemment que ça augmente le potentiel de croissance. Ça, on me dit parfois, mais attention, il n'y aura pas le travail. Non, Le travail, c'est une dynamique, c'est pas une statique. Ça se partage pas, contrairement à ce qu'on a cru à un moment donné. Ça se crée et ça se développe. Il y a beaucoup d'études qui, maintenant, le démontrent. Et à l'évidence, il y a encore beaucoup d'entreprises, même si la croissance va ralentir, là, il y a encore beaucoup d'entreprises qui cherchent à employer, qui ne trouvent pas. Et donc, garder des seniors, ça se fait d'ailleurs de plus en plus naturellement, parce qu'il y a besoin de gens, et que souvent, il y a l'expérience qui va avec. Bien sûr, il faut habituer les entreprises à le faire. Je fais simplement remarquer qu'il y a 20 ans, les entreprises faisaient beaucoup partir à 55 ans sur des pré-retraites avantageuses pour tout le monde. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on n'en est plus du tout là, parce que d'abord, il n'y a plus d'efforts pour faire des pré-retraites, j'ai fini. Mais deuxièmement, parce que comme on a repoussé l'âge de la retraite très insuffisamment, mais quand même, mais tout le monde s'est calé sur cela comme référence et comme norme. Donc faisons-le et on gagnera beaucoup. Et puis bien sûr, faut améliorer la productivité de l'administration. Et bien sûr, il faut... Moi, j'aime la réglementation, je pense qu'elle est nécessaire, mais la surréglementation est mauvaise. Et là, on est tombé du côté surréglementation, surnorme. Il faut abaisser tout cela pour repartir, redonner de la dynamique à une économie équilibrée, pas du tout ultralibérale, pas non plus ankylosée.
Donc c'est un peu comme les économies d'énergie, en fait. On pourrait dépenser 20% de moins sans changer vraiment notre niveau de...
Très probablement, si on s'y prend bien.
Merci, messieurs. Je rappelle vos deux livres, Olivier Klein, Dette, Réforme et Démocratie, Comment sortir du cercle vicieux français, Décryptage Édition, et puis Anton Brinvert, Géopolitique de la dette, où va l'épargne mondiale, c'est chez Odile Jacob. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission.
BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Lechypre.
On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturons avec le coup de cœur de la rédaction. On va vous donner encore plus d'études, de chiffres. Mais tout de suite, on retrouve nos critiques attitrés. À ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste à Alternative. économique.fr. C'est la première fois en 12 ans que ma langue fourche. Et qui est aussi le grand Manitou des pages livres de Alternative Économique, le magazine. Et puis à ma droite, Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Business School, président de la Société d'économie politique, dont il est aussi le critique légendaire. On va le dire comme ça.
Oui, bien sûr.
Allez, on commence avec votre choix. Jean-Marc Daniel, un livre consacré à Charles de Freycinet, Stratège de la République par Cédric Lewandowski aux éditions Passé Composé. Bon, honnêtement, Jean-Marc, de quel Freycinet s'agit-il?
Oui, absolument. Il y a en réalité deux personnes qui s'appellent Freycinet, mais ça ne s'écrit pas de la même
façon. Exactement.
Donc il y a Charles de Freycinet qui est le sujet de ce livre.
Donc, F-R-E. Y-C-I-N-E-T.
Voilà, il y a un Freycinet avec deux S, mais sans particules, qui est Eugène Freycinet. Et alors, tous les deux sont polytechniciens, je vais pas m'attarder sur la comparaison entre les deux, mais ils sont représentatifs tous les deux d'une époque différente de l'histoire de l'école polytechnique. Charles de Freycinet, il est né en 1828, il rentre à l'école polytechnique en 1846, et donc il est assez représentatif de ces polytechniciens du 19e siècle, qui sont des hauts fonctionnaires, qui notamment sous le Second Empire vont être très associés à la modernisation de l'économie, vont occuper des postes politiques. Et Eugène Freycinet, lui, c'est un ingénieur. Après, entre les deux, il y a la vague des militaires, donc il y aura tous ceux qui deviennent généraux. Et puis Eugène Freycinet redevient un ingénieur un peu plus traditionnel. C'est lui qui invente le béton. Alors, l'auteur, donc, Cédric Lewandowski, s'intéresse à Charles de Freycinet parce que lui-même a été au cabinet du ministre de la Défense et Charles de Freycinet a été à plusieurs reprises ministre de la Défense. Ce qui est intéressant dans le livre, c'est qu'effectivement, d'ailleurs il le dit, l'auteur, ce 19e siècle étant passé pratiquement dans l'oubli, alors que c'est un siècle qui est extrêmement fondateur pour l'histoire du pays, c'est un siècle de révolution et c'est un siècle de modernisation, de révolution industrielle. Alors le personnage de Charles de Freycinet, donc il a une particule, il appartient à une famille noble originaire de du Dauphiné, de la Drôme, il naît à Foix, parce que son père, qui est devenu fonctionnaire, est à ce moment-là en poste à Foix. Il va épouser, alors il appartient à un milieu protestant assez rigoriste, et il va épouser une, pour les Bordelais comme moi, la petite fille de Jean-Jacques Bosque. Jean-Jacques Bosque, c'est une figure à Bordeaux, il a son boulevard, c'est une des grandes figures des familles des Chartrons à Bordeaux. Et il fait une carrière avec trois éléments forts pour moi. La première élément fort, c'est la révolution de 1848, il va découvrir un peu le monde de la politique. Le deuxième moment fort, c'est 1870. Il a été responsable des chemins de fer. Il a eu des fonctions assez importantes. Il a été également élu au conseil général du Tarn-et-Garonne, d'où vient sa mère. Et là, il rencontre Gambetta. Et donc, c'est le technicien de Gambetta. Il va faire sa carrière derrière Gambetta. Il va devenir ministre, président du conseil. Il va être à l'origine d'un plan, le plan Fraissinet, qui est un plan d'équipement sur le plan des transports. Et puis, le troisième moment fort sur lequel l'auteur n'insiste pas beaucoup et qui est un peu son déclin, c'est l'affaire Dreyfus. C'est-à-dire que il va... Alors, je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a un professeur de l'école polytechnique qui est renvoyé par la direction de l'école pour avoir défendu Dreyfus, et au lieu de le soutenir, il va confirmer le renvoi. Et en plus, son professeur, c'est Georges Duruy, qui est le fils du Victor Duruy, qui était ministre sous Napoléon III. C'est une famille d'intellectuels normaliens, c'est pas non plus, en plus, quelqu'un qui est un exalté. C'est des gens qui
sont... Mais les normaliens.
Voilà. C'est un normalien. Comme toujours, d'ailleurs, les normaliens, qui représentent une surface
intellectuelle. Mais Alix, on n'aime pas les normaliens.
Ah, il y a ça aussi, oui, il y a ça, bon. Et donc, la fin de sa vie est un peu triste, il redevient ministre de la guerre, de la défense, sous la Première Guerre mondiale. Ce que j'ai trouvé intéressant dans le livre, c'est effectivement la description d'une époque et la naissance de la Troisième République. Ce qu'il y a, c'est que le personnage n'est pas forcément aussi important que voudrait nous le faire passer l'auteur. Ce que j'en ai retenu. À la fin des fins, il dit il était fasciné par la mécanique rationnelle, et il mettait en avant le fait que quand on a acquis une certaine vitesse, il y a une forme d'immobilisme qui fait qu'on garde cette vitesse.
L'inertie.
C'est l'inertie. Mais donc c'est quand même un personnage assez inerte, fondamentalement, au sens de la mécanique.
Christian Chavagneux.
Ouais, je partage tout à fait l'avis de Jean-Marc. On n'a pas gardé Charles de Fraissinet. Il n'est pas entré dans le panthéon mémoriel national. Non. Personne ne sait qui c'est, généralement. Mais quand on a fini le bouquin, on comprend pourquoi. C'était un deuxième couteau de la Troisième République. Comme il y a eu plein de deuxièmes couteaux, il était un coup ministre, un coup président du Conseil, après sénateur, etc., etc. Et ce qu'on aimerait bien. Alors, c'est vrai que Jean-Marc l'a bien dit, on a oublié cette Troisième République, tous ces personnages, et donc l'auteur prend, c'est vraiment le gros avantage du livre, il prend beaucoup de temps à nous expliquer la dynamique politique et comment Charles de Fraissinet s'inscrit dans la dynamique politique de la Troisième République. C'est quand même très hagiographique, plutôt grosse tendance hagiographique pour un personnage qui est quand même pas super super. Pour nous économistes, évidemment, le plan Fraissinet, c'est la chose qui nous intéresse, Jean-Marc l'a dit, un grand plan d'infrastructure publique, notamment sur le rail, mais on n'en apprend pas tant que ça. La description, oui, est là, mais concrètement, comment le plan Fraissinet, qui dure pendant plusieurs dizaines d'années, comment il a été mis en œuvre, on ne sait pas trop. Et moi, je m'étais intéressé au plan Fraissinet il y a deux ans déjà, et en fait, j'avais lu à l'occasion une autre biographie de Fraissinet par Julien Boucher, qui s'appelle Charles de Fraissinet, bâtisseur de la République. J'ai trouvé plus intéressant parce que plus distancé. Et on comprend vraiment pourquoi il n'est pas resté dans le panthéon national. C'était un savant, un scientifique, mais il a publié des livres sur la mécanique rationnelle, mais en fait, il n'était pas très bon. En fait, comme scientifique, on apprend même dans l'autre livre qu'il a redoublé la deuxième année des mines parce que ses résultats étaient pas suffisants. Après, on nous dit ouais, mais c'était un modéré, c'est pour ça qu'il a réussi à trouver sa place. Alors, modéré, on peut le dire comme ça, on peut le dire aussi, c'est un sacré opportuniste. Sous Napoléon III, il se fait élire comme conseiller général, il reçoit la Légion d'honneur, et puis dès qu'on passe à la Troisième République, comme on dit, c'est un républicain du lendemain, tout d'un coup, il devient républicain. Il va un petit peu d'un côté, un peu à droite, un peu à gauche, c'est pour ça qu'il arrive à faire une grande carrière. Bon, un personnage, en fait, pas fondamentalement intéressant, et c'est pour ça qu'on l'a oublié. En fait.
Alors, Christian Chavagneux, vous avez choisi de vous intéresser à une véritable star qui nous fait tous rêver, qui enchante tous nos sens, c'est la vanille.
Ah ouais, elle est présente dans le dit en permanence.
Exactement, avec cette histoire globale de la vanille aux éditions du CNRS par Eric Jennings.
Voilà, donc on commence...
Faites-nous rêver.
Oui, alors ça commence au Mexique en fait, parce que là c'est là que visiblement naît la vanille, et le contrôle du marché de la vanille, c'est l'Espagne. Et donc on essaye bien, d'autres pays aimeraient bien aussi prendre le contrôle de cette vanille. Il faut savoir qu'à l'époque, la seule façon de développer la vanille, c'est on attend que les abeilles fassent leur boulot de pollinisation. Ouais. Et tout d'un coup, dans les années 1830, il y a un Belge qui arrive et qui dit « Ah, mais on pourrait peut-être essayer de le faire manuellement. » Bon, il fait un peu de vanille, mais visiblement, elle n'est pas très bonne et elle sent mauvais. Du coup, ça ne va rien donner, son offre n'est pas... Et puis, début des années 1840, là, on est à l'île de la Réunion, qui s'appelle l'île Bourbon à l'époque. C'est pour ça qu'on appelle souvent la vanille Bourbon. C'est un esclave, Edmond Albus, qui, lui, va trouver une méthode assez simple de pollinisation des orchidées de vanille. Et donc, la vanille Bourbon va exploser en termes de production, d'exportation. Ils vont dominer le marché mondial pendant un bon demi-siècle, jusqu'à ce que les producteurs de vanille de l'île Bourbon se disent, tiens, peut-être que si on allait à Madagascar, on aura une main-d'œuvre, on va délocaliser à Madagascar pour avoir une main-d'œuvre moins chère. Donc, c'est Madagascar qui prend le lead, et puis après Tahiti, puis après d'autres pays. Mais jusqu'aux années 1980, l'auteur nous parle d'un cartel de l'océan Pacifique. Ils vont dominer jusqu'à 75% de la production de vanille naturelle dans le monde. Ah, jusqu'aux années 80. Et là, l'Indonésie arrive, fait exploser les prix, et là, le cartel va s'effondrer. En plus, en même temps, depuis le début du XXe siècle, se développe la famille, la vanille chimique. Une des grandes multinationales qui va développer la famille chimique, c'est quand même drôle, c'est Monsanto, au début du XXe siècle. Et donc, l'auteur nous dit 99% des confiseries, de tout ce que vous mangez, des yaourts, des gâteaux, où il y a marqué avec un arôme de vanille, c'est de la vanille synthétique complètement chimique. Et pourtant, si vous avez comme moi la chance d'avoir un fournisseur de vanille Bourbon, quand vous ouvrez le tube de verre et que vous avez la vanille là et que vous mangez ça, là vous vous dites voilà ce que c'est le vrai goût de la vanille. Et c'est tous ces péripéties que nous raconte l'auteur à travers ce livre.
Est-ce que vous avez salivé, Jean-Marc Daniel, Alors,
c'est un livre que j'ai trouvé intéressant. Quelquefois, on rentre beaucoup dans les détails. On croise énormément de personnages. C'est un côté feuilleton du 19e siècle. On finit par rencontrer les personnages. Bon, il y a à un moment donné un événement assez anecdotique d'un importateur de vanille qui a assassiné Boulevard Voltaire en 1908. Alors, je me dis, on va en plus avoir maintenant une enquête policière. Alors, il y a une description de l'appartement, tout ça, on s'aperçoit que le mec traficotait la vanille dans son appartement qui n'était pas un fonds de commerce, qui était un appartement bourgeois et tout. Et puis on ne sait pas exactement comment a conclu l'enquête. Et donc on s'y perd un peu, j'ai trouvé ça, mais il y a quand même... Alors c'est bien écrit, l'auteur est canadien et il en a fait deux versions, une version en anglais, mais c'est pas sa version en anglais traduite, c'est une version en français. Comme canadien, il est obligé de parler français, donc on sent bien que c'est pas quelque chose qui a été... traduit de l'anglais, c'est vraiment quelque chose qui a été écrit pour être en français. Alors, dans les personnages qu'il décrit, il y a le Belge, là, dont il dit bien, il commence par être français parce qu'il est né en 1803, ensuite il devient néerlandais, puis après il est belge, donc le mec a une espèce de destin où il passe son temps à perdre ses références, et tout ça. Donc, tous ces personnages-là sont passionnants, et on arrive quand même à deux constats que j'ai trouvé. Le premier constat, c'est que finalement, on consomme pas de vanille. Christian l'a dit, 99% c'est de la chimie. Donc et le deuxième constat, je me suis dit, c'est on va avoir normalement une déferlante de tout un tas de livres sur on va passer de la vanille, ensuite ce sera le thé, puis ensuite le cacao, puis ensuite, qui existait déjà.
Il y a déjà.
Puis ensuite ce sera la banane. Puis
on a eu la tomate aussi, bien sûr.
Oui, alors évidemment. Je dis, il y a une mine qui est... l'enjeu sur la vanille est... Bon, c'est intéressant, mais c'est un peu long par rapport à... Là aussi, par rapport à l'intérêt. La vanille, c'est un peu comme Charles de Fraissinet.
Chaque livre ne peut pas être un livre essentiel.
Non, mais j'entends bien, c'est pas le livre en tant que tel, c'est le sujet.
C'est quand même un esclave dans une plantation de la Réunion qui développe le marché mondial de la vanille. C'est une histoire, c'est un destin.
Voilà, 20 pages.
Merci, merci messieurs. Allez, c'est l'heure de retrouver notre étude de la semaine.
BFM Business, la librairie de l'écho, l'étude de la semaine.
L'étude de la semaine, c'est celle d'Alliance Trade qui s'est interrogée sur le rapport entre l'IA, l'intelligence artificielle, et le commerce mondial. Comment l'intelligence artificielle redessine-t-elle le commerce mondial? Et pour en parler avec nous, Guillaume Dejean, conseiller sectoriel chez Alliance Trade. Bonjour Guillaume.
Bonjour,
vous allez bien? Alors, très bien. Est-ce que, première question que j'ai envie de vous poser, parce que le lien il n'est pas évident forcément entre le thème de l'intelligence artificielle et le thème du commerce mondial, est-ce que c'est le commerce mondial qui dépend le plus de l'IA, ou est-ce que c'est l'IA qui dépend le plus du commerce mondial?
Je dirais plutôt que c'est l'IA qui dépend le plus du commerce mondial, dans le sens où on voit à travers les échanges de biens et de marchandises, on est plus sur aujourd'hui un marché de développement d'une infrastructure avec justement les exportations de biens intermédiaires qui représentent plus des trois quarts aujourd'hui des biens qu'on dit liés à l'IA. Aujourd'hui, on essaye de développer justement un écosystème. On parle beaucoup de centres de données, de plateformes cloud. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est développer aujourd'hui les capacités de calcul pour après pouvoir déployer l'IA. Sans capacité de calcul, on ne peut pas la déployer. On voit qu'on serait limité aujourd'hui dans son utilisation.
Et vous soulignez bien que cette ouverture commerciale, en fait, est une condition majeure pour que l'IA finisse par dégager, par délivrer des gains de productivité.
Effectivement, quand on regarde aujourd'hui les indices aujourd'hui d'intégration de l'IA par pays, on voit que ce sont les pays les plus ouverts au niveau du commerce qui ont adopté le plus facilement et avec le plus de technicité, on va dire, l'IA. Quand on fait une régression, on voit que vraiment l'ouverture au commerce mondial explique 23% aujourd'hui de niveau d'intégration de l'IA au niveau pays. Donc c'est quand même quelque chose de très important.
Alors, vous soulignez, il y a trois dynamiques structurelles que vous mettez en avant dans cette étude. Un, la concentration de la chaîne d'approvisionnement en temps, ce que vous appelez que point de défaillance unique, c'est-à-dire, autrement dit, des chaînes d'approvisionnement qui se concentrent sur quelques pays et où en fait finalement vous n'avez sur beaucoup de maillons de cette chaîne de l'IA que souvent un seul producteur, et comme on sait qu'une chaîne n'a que la résistance de son maillon le plus faible, et ben au final c'est une chaîne assez fragile.
C'est exactement ça. Ce qu'on voit à travers justement cet écosystème d'IA, c'est qu'on a des pôles d'expertise par segment. On a les experts de puces de mémoire. On a les experts de production de puces très faibles, localisés au Taïwan. On a les experts qui vont être sur les tests, sur le packaging. Et on voit que chaque pays, chaque pôle, on voit effectivement qu'on a deux trois acteurs. Les Européens sont également concernés, puisque un groupe comme ASML aujourd'hui est leader sur tout ce qui est machine de lithographie. Et donc on voit que justement le fait qu'il y ait très peu d'acteurs, qu'on ait une supply chain qui soit limitée face à une demande qui explose, ça crée des points de tension qu'on voit notamment à travers les transactions, puisque aujourd'hui on explique que c'est le prix qui drive deux tiers de la valeur des exportations et le volume seulement un tiers en 2026. Ce qui est quand même quelque chose de non négligeable et qui est accentué notamment par les tensions au Moyen-Orient.
Alors il y a une nouvelle dimension aussi que vous mettez en avant dans cette étude, c'est finalement comment le contrôle des centres de données, de l'infrastructure cloud, de la capacité de calcul est devenu aujourd'hui une source de pouvoir géopolitique d'une logique un peu différente que la traditionnelle puissance géopolitique émanant de vos simples finalement flux commerciaux traditionnels.
C'est vrai que si on regarde juste les simples flux de services, en Europe par exemple, ils sont principalement localisés en Irlande. Simplement pour, on a un hub qui est localisé là-bas et que les principaux hyperscalers américains ont centré leur activité européenne parce qu'il y a des exigences de garder de la collecte de données sur le sol européen. Néanmoins, aujourd'hui, les donneurs d'ordre, les détenteurs aujourd'hui des de principaux nouveaux data centers qui favorisent ce développement de l'IA sont détenus par les hyperscalers et notamment sur tout ce qui est la pipeline, tous les nouvelles capacités de production à venir. Plus de la moitié aujourd'hui seront livrables et seront détenus par les hyperscalers. Ce qui fait qu'on risque d'avoir aujourd'hui une dépendance qui est déjà très forte puisqu'on a environ 70% de tous les revenus cloud, IT, et software qui sont détenus par des entreprises américaines sur le sol européen. Et le fait qu'on ait justement ces capacités, cette infrastructure qui, bien qu'elle soit sur le sol européen, soit détenue par des capitaux étrangers, en l'occurrence ici américains, risque de renforcer encore un peu plus cette dépendance à l'heure où on est sur une digitalisation de l'économie.
Merci beaucoup Guillaume Dejean, conseiller sectoriel donc chez Allianz Threat, pour avoir partagé avec nous cette étude « Comment l'IA redessine le commerce mondial ». Allez, c'est l'heure de vous donner encore plus de chiffres et d'études.
BFM Business, la librairie de l'écho, des idées et des chiffres.
Et on s'intéresse cette semaine à cette passionnante étude de l'Institut des politiques publiques qui fait le point sur l'efficacité ou non du dispositif d'encadrement des loyers. L'encadrement des loyers, rappelons qu'il est aujourd'hui en vigueur dans plus de 70 villes de France, dont les plus grandes, Paris, Lyon, Lille, Bordeaux. La fin de cette expérience est programmée pour le 25 novembre 2026 et son avenir, évidemment, dépendra du bilan qu'on peut en tirer. Bilan qu'esquisse donc l'Institut des politiques public dans ce rapport qui vient d'être remis au ministre du Logement et qui circule à peu près dans toutes les rédactions. Alors, premier point, est-ce que le dispositif a vraiment permis de limiter la hausse des loyers? Oui, un peu. 500 euros par an en province, 800 euros à Paris en moyenne, c'est-à-dire 2 à 4% des loyers les premières années, sauf que le dispositif a en partie raté sa cible puisqu'il a beaucoup profité aux ménages aisés et déjà installés, et puis il a généré des pertes de recettes fiscales pour l'État. Et puis, est-ce que l'encadrement des loyers a eu des effets sur l'offre de logements à louer? Les auteurs évoquent des effets négatifs à long terme sur l'offre et la qualité des logements locatifs. Plusieurs villes ont vu diminuer leur nombre d'annonces disponibles, les propriétaires investissent moins dans l'entretien, la rotation des logements ralentit, ce qui pénalise en priorité les ménages les plus modestes et les nouveaux entrants sur le marché. Bref, des conclusions qui ne sont pas très différentes de celles que nous avait déjà livrées la science économique avant la mise en place de ce dispositif.
BFM Business, la librairie de l'écho, le coup de cœur de la rédaction.
Et c'est celui de notre journaliste à BFM Business, Adrien Guillaume Padovan. Bonjour Adrien Guillaume.
Bonjour Emmanuel. Bah, très bien et vous?
Eh ben super, super. Et vous venez nous parler de la finance aux extrêmes. L'enquête de la sociologue Marlène Binquet, publiée aux éditions La Découverte, elle y analyse l'évolution du capitalisme de ces 30 dernières années et considère que ce capitalisme financier, puisque c'est comme ça qu'il faut le qualifier, il est en train de basculer dans une nouvelle ère. Qu'est-ce qui est en train de changer selon elle?
Bien, une fraction du monde financier serait en train de redéfinir son rapport à la démocratie. C'est la thèse de Marlène Banquet tout au long de son livre. Mmh. On serait passé d'un capitalisme tourné autour du commerce, des usines, puis aux multinationales, ouais, et enfin à la finance. Et c'est cette financiarisation que l'auteur analyse, car elle distingue deux logiques très différentes. En premier, la finance à pépère, on va dire, la première finance, c'est-à-dire les banques, les assurances qui collectent l'épargne pour les investir sur les marchés, un schéma donc très classique.
Ouais.
Et en deuxième, cette seconde finance avec les fonds spéculatifs, des fonds de capital risque qui, eux, gèrent l'argent de ces mêmes banques et de ces assurances. Une sorte de finance de la finance, en fait. Et pour donner une idée de son poids aujourd'hui en France, cette seconde finance, c'est l'équivalent de deux fois la richesse nationale.
C'est fou.
C'est incroyable, en seulement quelques années. Et de fait, ce changement s'accompagne d'un basculement du rapport à la chose publique. Une fraction de cette seconde finance, elle en aurait fini avec le néolibéralisme qu'elle juge trop réglementé, trop concurrentiel. Elle cherche à construire des positions monopolistiques et à traiter directement avec les États. Et ça, c'est un projet plus qu'économique, c'est un projet politique qui implique la mise à mal de la démocratie. Elle appelle ça le libertarianisme autoritaire.
Ah ouais, d'accord.
Dérégulation radicale, hostilité à l'État-providence et souverainisme. Et son aboutissement, ce serait ce qu'elle nomme un capitalisme impérial. Alors, dans cette nouvelle ère, Emmanuel, vous oubliez l'idée de ce qu'on fait du marché, du rôle traditionnel de l'État.
Ouais.
La démocratie, c'est une contrainte.
D'accord. D'accord. Mais au-delà du système, le livre, il nous décrit aussi le quotidien hein, de ces acteurs, c'est-à-dire qui sont-ils, comment ils travaillent. C'est quoi le portrait robot de tous ces acteurs et de tous ces élateurs de la nouvelle finance?
C'est le point fort du livre, et c'est le point fort des livres de Marlène Banquet, qui fait vraiment des enquêtes immersives et des enquêtes de terrain.
Ouais.
Elle a étudié ce milieu vraiment au plus près, refait des formations.
La finance a un visage avec elle.
Avec elle, tout à fait. Et elle l'a fait précédemment dans son livre, qui était une enquête aussi sur la grande distribution. Ce qui en ressort, c'est donc un portrait d'un robot ou d'un monde ultra fermé qui n'a rien à voir avec les clichés traditionnels de la finance. Avant, le grand financier, il était visible, ancré localement. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Les profils sont hyper homogènes. Ils apprennent leur métier en plus sur le tas. C'est ce que pointe Marlène Banquet. C'est un véritable phénomène d'enfermement. Leur cercle social se referme sur leur père sans que personne ne vienne questionner leur pratique. Cet isolement, il les coupe de la réalité du reste de la population, renforçant leur indifférence face à cette perte de droits démocratiques. Mmh. Et le meilleur exemple actuel, c'est Elon Musk. De par ses entreprises qui ont été massivement soutenues par l'argent public américain, Et alors que ce même homme, il a été à la tête du DOGE, le ministère américain chargé de démanteler l'État, on est bien au-delà, en fait, dans son idéologie de le simple rapprochement libertarien qu'on se fait.
Mais est-ce que leur motivation, c'est de gagner le plus d'argent possible, ou bien, bien ils sont complètement différents de ce qu'on pourrait qualifier de valeurs traditionnelles un peu bourgeoises, évidemment, la réussite financière.
Oui. La rupture, elle est nette. Elle est nette par rapport aux grandes dynasties industrielles, que ce soit les Peugeot, les Hermès ou les Wendel, avec une logique de transmission qui n'est pas là pour ces jeunes financiers. Ici, on assiste à un enrichissement purement individualisme, sans projet patrimonial intergénérationnel, comme le faisait cette ancienne bourgeoisie industrielle, ou même l'ancienne noblesse dans l'ancien régime. Pour se justifier, ils affirment mériter leur fortune en prenant des risques, en finançant l'économie, validant un système qui est en fait très inégalitaire. Et à force de se croire seuls légitimes pour diriger l'économie, ils en viennent à prendre eux-mêmes les décisions et à exclure les citoyens du débat. Donc, à la fin, c'est un livre très dense, il ne faut pas se le cacher. Mais c'est un indispensable en séparant la finance classique de cette super-finance. Ouais. Marlène Banquet nous fait comprendre une partie du capitalisme aujourd'hui avec ses projets politiques qui étaient indispensables il y a 20 ans et quitte à sacrifier pour eux la démocratie.
Eh bien, voilà des nouveaux visages avec lesquels il va falloir se familiariser. Merci beaucoup Adrien Guillaume Padovan. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix.
BFM Business, la librairie de l'écho, les livres de la dernière minute.
Christian Chavagneux, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui ?
Je reste dans les livres historiques. Alors, un titre tout à fait accrocheur, Le mystère de la porcelaine bleue,
oula,
quand la France des Lumières espionnait la Chine. Alors, malheureusement, dans le livre, il est un peu question de porcelaine bleue, mais pas beaucoup, et pas beaucoup d'espionnage non plus. Donc, le titre est un peu accrocheur, mais le contenu néanmoins est intéressant. Ça démarre sous Colbert, mais c'est surtout au XVIIIe siècle. En fait, beaucoup de marchands et surtout beaucoup de missionnaires, des jésuites, vont se balader en Chine, essayer de comprendre toutes les techniques de fabrication de la porcelaine bleue, mais plein d'autres produits aussi, pour envoyer ça en France et que nos Français, nos industriels français puissent comprendre comment ça fonctionnait en Chine. Alors que c'est intéressant, en même temps, on arrive à la conclusion et l'auteur nous dit « Oui, mais en fait, les industriels français n'ont rien fait de tout ça, ils ne voulaient pas du tout copier ce que faisaient les Chinois, c'était juste par ouverture d'esprit pour savoir techniquement comment les autres faisaient par rapport à eux. » Donc, c'est un livre un peu décalé, un peu original, mais évidemment, on apprend plein de choses sur le regard de la France sur la Chine au 18e, et on s'aperçoit que la Chine était un grand sujet de débat dans la France du 18e.
Jean-Marc Daniel.
Alors moi, c'est une des dernières publications de la Fondapol. Vous savez, la Fondapol, c'est le think tank que dirige Dominique Régnier. Et ils ont une collection, une sorte de, oui, de collection autour des extrêmes droites en Europe. Et le dernier texte, c'est un texte de Jules Lemaire sur le Royaume-Uni. Ça s'appelle Réforme UK dans l'ère post-Brexit. Et il montre effectivement comment dans ce pays, qui est quand même un pays qu'on associe assez systématiquement pour des raisons historiques à la démocratie, au libéralisme, à la tolérance, est en train effectivement de basculer. Et c'est à la fois passionnant et inquiétant.
Bien. Eh ben, écoutez, moi, c'est pareil. Je vais rester dans ce côté un peu nostalgique avec ce livre de Jean-Claude Raspienjas. Il est journaliste et écrivain. Et alors, ça s'appelle La France à la carte, et il nous entraîne finalement sur les routes de France. Alors c'est un peu, encore une fois, une France fantasmée, sublimée, mais qu'on finalement découvre à travers l'histoire des cartes routières, et qui raconte ces cartes routières, eh bien, l'essor du vélo, l'essor de la voiture, l'essor des déplacements pour le travail, des vacances, la modernisation des infrastructures du pays. C'est un formidable voyage dans le temps et l'espace sur les routes de France. Ça s'appelle donc La France à la carte, et c'est aux éditions Équateur. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine, et d'ici là, bonne lecture.